Bonjour à vous, mon nom est Corinne Touga, je suis votre animatrice dans le cadre de ce podcast qui est La vie maraîchère. C'est le balado du Jardin des Funambules. Notre mission, c'est de partager les dessous de la vie maraîchère pour participer au mieux-être fermier et faire connaître notre réalité un petit peu plus. Bienvenue à cet épisode. La gang. Alors, ce mois-ci, je commence en vous lançant un petit défi. Donc, je veux juste vous avertir que c'est un défi qui s'applique uniquement si vous tripez sur le projet. Donc, si c'est le cas, si ça vous fait triper, si vous avez envie d'en avoir plus, d'avoir plus de contenu, que ça soit un projet qui dure dans le temps, que vous sentez que c'est des sujets qui viennent vous toucher, puis que vous sentez que ce balado-là est utile dans le monde. Bref, si vous trouvez que c'est un beau projet puis que vous avez envie de le montrer, ça serait tellement le fun. Puis oui, c'est ça, ça ferait en sorte qu'effectivement, ça durerait dans le temps. Alors, la façon la plus concrète, directe, la plus, disons, efficace là, de le montrer, c'est par le biais d'un don mensuel. Puis je tiens juste à préciser que même si c'est un petit 2$ qui a l'air bien insignifiant, ben moi, ce que ça fait, c'est que ça me prouve votre intérêt. Ça fait comme « Hey, yes, on aime ça que ça existe, bravo », tu sais. C'est vraiment significatif pour moi, c'est absolument pas rien. C'est une personne de plus qui me dit « oui, j'aime ça, c'est utile à ma vie ». Alors, ce n'est pas rien. Donc, maintenant que mon petit speech est fait, je vais vous dire comment faire. C'est assez simple, vous allez sur notre site, après ça, vous allez sur l'onglet « balado » et à la droite, il y a un bouton qui s'appelle « soutenir le projet ». Ça vous donne accès à un site qui s'appelle « Patreon ». Vous devez vous inscrire sur ce site-là et décider de donner le don de votre choix, il y a 2, 5 ou 10 $. Donc voilà, je laisse ça entre vos mains puis j'espère vous avoir donné le goût de me montrer votre soutien. Alors, passons au sujet chaud. Ce mois-ci, j'ai l'occasion d'avoir en entretien nul autre que Anne Veil. Si vous ne la connaissez pas déjà, c'est une agronome avec des connaissances remarquables en ce qui concerne en particulier les sols et leur santé. Donc, elle est agronome de formation. Et elle a été chargée de projets et conseillère en innovation au CETAB depuis de nombreuses années. Elle a aussi publié des foules de publications. Je vais mettre un lien, en fait, si vous voulez voir un peu le travail qu'elle a fait, les publications qu'elle a publiées. Vous allez voir, c'est une entrevue qui est sur un ton un petit peu différent de ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. J'ai l'impression qu'on a surtout abordé des sujets d'ordre social jusqu'à maintenant. Là, c'est vraiment une entrevue plus technique, puis j'ai trouvé ça très stimulant à tourner, vraiment le fun. Je veux juste souligner que peut-être que les gens qui ne sont pas initiés au maraîchage déjà, peut-être ça va être un petit peu plus profond, en fait, le sujet. Les sujets techniques sont un petit peu plus profonds que les épisodes d'avant, mais je crois que ça reste accessible, donc j'espère que ça va être plaisant à écouter pour vous. En fait, on visite essentiellement les bases de ce que c'est un sol en santé, les bases aussi des notions techniques un peu classiques à savoir, de ce que c'est des engrais verts. On revisite vraiment des bases, là. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir cette entrevue-là. J'espère que ça va vous stimuler, vous nourrir aussi dans vos réflexions. Puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Puis j'espère que vous allez aimer ça. Juste avant de commencer, je veux prendre le temps de souligner l'importance des entreprises qui ont décidé de me soutenir. Donc, il s'agit dans un premier temps de Dubois Agri-Innovation, qui est le partenaire principal du projet, que je remercie encore une fois, dont je vais vous parler un petit peu plus tard au cœur de l'entrevue. Dans un second temps, il y a évidemment les équipements Tivierge qui font des équipements absolument solides. On en a plusieurs sur la ferme. On est hyper content de les utiliser. C'est vraiment des outils merveilleux. Franchement, à tous les jours, ils nous sont utiles. On est content que les équipements Tivierge existent. Merci à eux de nous soutenir. Dans un troisième temps, en fait, il y a Climax Conseil qui, eux, sont indispensables. C'est évident, là, ils nous soutiennent dans la gestion de nos serres. Ils sont toujours là pour nous rassurer, pour nous conseiller, pour nous aiguiller avec justesse. Merci à eux de soutenir le projet et merci de nous aider dans le cadre de la ferme aussi. Donc, voilà, je vous laisse écouter l'épisode sans plus attendre. Merci à vous de me prêter vos oreilles. Bonjour Anne.
Bonjour Corinne.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, merci d'être avec moi. C'est un honneur de pouvoir te recevoir dans le cadre du balado.
Ça me fait plaisir.
Alors, j'ai plein de questions à te poser. J'en ai une notamment qui peut servir aux gens qui sont actuellement à la recherche d'un emplacement pour faire leur projet. Si on arrive sur une terre, là, bon, c'est une terre inconnue, on n'a pas d'historique, on est vraiment comme aveugle par rapport à la qualité du sol. Comment on fait? C'est quoi les outils qu'on peut aller chercher pour avoir des réponses rapides à propos de la qualité d'un sol?
OK, mais avant de regarder la qualité du sol, faut regarder l'évacuation de l'eau, c'est super important. Faut regarder la topographie du champ. Est-ce qu'il y a des buttes? Est-ce qu'il y a des baissières? Là où il y a des baissières, des zones basses, on est sûr qu'on va avoir des problèmes avec l'eau qui s'accumule. Il faut qu'il y ait un bon réseau de fossés autour pour que l'eau puisse s'en aller de la terre. Et les situations particulièrement à problème, c'est les zones en bas de pente, parce que l'eau descend de la pente, pas nécessairement sur la surface du sol, mais dans le sol, et se ramasse en bas. Ça fait que c'est des zones où il y a toujours beaucoup d'eau. Alors, quand la topographie n'est pas parfaite, et en général c'est le cas, faut savoir qu'il faut prévoir des travaux de drainage, l'installation de puits d'infiltration, de tranchées filtrantes, en tout cas des travaux qui permettent d'évacuer l'eau. Et pour arriver à évacuer l'eau, ça prend des fossés qui s'en vont vers des cours d'eau et qui s'en vont vers des rivières. Alors, une fois qu'on a évalué la situation juste en regardant la topographie, une autre chose qu'on peut regarder, toujours avant de regarder le sol, c'est l'état du foin, si c'est du foin ou des cultures ou des mauvaises herbes. Est-ce qu'elles sont belles et vertes ou est-ce qu'elles ont l'air toutes petites, rabougries et jaunes? Ou encore, est-ce que ça varie beaucoup dans le champ? Ça donne aussi un indice de la fertilité ou de la pauvreté du champ. Et si ça varie beaucoup dans le champ, bon, ben, ça donne des endroits où aller faire des trous pour aller regarder le sol. On peut choisir des endroits où c'est beau, des endroits où c'est pas beau. On peut comparer, on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, une fois qu'on veut regarder le sol, bon, c'est bien d'avoir une analyse de sol, il faut avoir une analyse de sol, mais ça renseigne seulement sur la couche de 0 à 15-20 cm, ça nous renseigne sur la richesse. Mais la richesse du sol, le fait qu'il y ait beaucoup de phosphore ou de potassium, c'est pas capital. S'il n'y en a pas beaucoup, on peut en rajouter. Ce qu'il faut, c'est que l'état du sol, la structure du sol soit en bon état. C'est-à-dire qu'il faut faire un trou d'à peu près au moins 2 pieds, idéalement 3 pieds, et il faut regarder le sol à différentes profondeurs. La première chose, c'est d'identifier les couches. Normalement, en pédologie, on parle d'horizon A et B. A, c'est le topsoil, c'est-à-dire que c'est la partie qui est plus brun-noir, et B, ça change de couleur et c'est ce qu'il y a en dessous. Normalement, quand on travaille le sol, on reste toujours dans l'horizon A. Et en plus, il faut regarder si c'est une terre qui a déjà été cultivée. Il faut délimiter les couches de travail de sol, c'est-à-dire qu'il y a peut-être le 10 cm du haut qui a été travaillé par des outils, alors qu'en dessous, ça n'a pas été travaillé. Donc, une fois qu'on a identifié nos couches, et souvent, il y en a au moins 3, une zone travaillée, une zone qui n'est pas travaillée et une zone qui n'est pas travaillée mais qui est encore plus profonde et qui n'est pas affectée par les passages de machinerie. Alors, une fois qu'on a ces couches, ben, il faut regarder dans quel état elles sont. Et pour ça, on regarde et la couleur et la structure. Si la couleur tire vers le brun, rouille, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène, donc c'est bien drainé. Et ça, en haut et en bas. Si c'est mal drainé, c'est plutôt dans le fond du trou qu'on va le voir. On va voir des couleurs qui tirent plutôt sur le gris, bleu ou vert. Donc,
Ça va aussi être associé à une odeur, est-ce que je me trompe?
Pas toujours. Si ça sent mauvais, si c'est vraiment en très mauvais état, avec de la matière organique en train de pourrir parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Mais sinon, c'est juste les couleurs qui vont nous l'indiquer. C'est pas évident, il faut avoir un peu d'habitude, d'expérience, pour réellement interpréter ces couleurs-là. Des fois, on voit aussi, dans le fond du trou, c'est gris, mais avec des petites taches oranges. Ça aussi, ça dit que le drainage naturel n'est pas très bon. Donc, la couleur, ça nous indique déjà de l'information sur le drainage. Et après ça, on regarde le sol lui-même dans les différentes couches. On prend des poignées de sol, on regarde si ça se défait bien pour voir la structure. C'est quand même quelque chose de très difficile à faire, qui prend énormément d'expérience. Je recommande fortement de chercher un agronome qui est capable d'évaluer les profils de sol. Et il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il faut en faire des dizaines et des dizaines avant d'avoir une bonne idée. Il faut en faire plusieurs dans le champ pour être sûr de notre conclusion, parce que ça peut varier d'un spot à l'autre dans le champ.
Oui, donc il faudrait presque être accompagné de facto par un expert quand on va faire des recherches pour un terrain, là, ce qui n'est pas nécessairement possible. Sur quoi est-ce qu'on peut se fier sinon? Je sais que tu as un livre notamment qui peut nous aider.
Oui, mais je pense que c'est indispensable de chercher un professionnel pour évaluer le sol, surtout que c'est l'achat d'une vie probablement. Oui. Donc, si on se trompe, c'est assez malheureux. Alors, pour le maraîchage, un sol pauvre, c'est vraiment pas dérangeant. On peut l'enrichir autant qu'on veut. On travaille sur des petites superficies. C'est vraiment un sol qui est dans un état physique pas adéquat, trop compacté en profondeur. Compacté en surface, ça peut se défaire avec des outils de travail du sol. Si la compaction est naturelle, ça va être difficile de la défaire parce que le sol est naturellement compact. Si la compaction vient du propriétaire précédent qui a mal géré ses sols, ça se ramène. Si jamais vous voulez évaluer votre sol vous-même, il y a un guide qui a été écrit par moi-même, en fait, qui est vendu par le CRAAC et qui s'appelle « Les profils de sol agronomiques », un outil de diagnostic de l'état des sols. Vous avez énormément d'informations là-dessus, des photos qui vous montrent comment évaluer un profil de sol.
Oui, bien, c'est un bon outil de base là, à avoir en main, mais comme tu dis, ça ne remplace pas l'expérience, ça ne remplace pas des dizaines et des dizaines de profils de sol où est-ce qu'on va venir regarder la texture, qu'on va voir différentes couleurs, différentes odeurs. C'est tellement empirique, en fait, comme expérience,
ouais.
Là.
Oui, c'est ça. En fait, au début, on est complètement perdu quand on regarde ça. Puis au bout de 10 profils de sol, on l'est encore un peu. Fait que c'est... Ouais, faut de l'expérience.
C'est un peu intimidant. Et j'aimerais ça juste revenir sur l'eau, en fait, la dynamique de l'eau. Tu as commencé en parlant de ça. Je pense que c'est quand même assez majeur comme élément à regarder. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre pour acquis qu'il faut faire des investissements? D'après toi, à vue de nez comme ça, c'est quoi le pourcentage des terres agricoles qui est drainé au Québec?
Bien, tous les agriculteurs qui cultivent des grandes surfaces, producteurs de grandes cultures, producteurs de légumes, ils ont drainé leurs terres et souvent, ils redrainent, ils doublent leurs drains. Parce que même ce qui avait été fait dans les années 60-70, ils trouvent que c'est pas assez. Il faut que la nappe d'eau, quand il pleut, la nappe d'eau monte parfois jusqu'à la surface du sol. Il faut qu'elle puisse se rabaisser très rapidement. Normalement, on veut que en 3 jours, la nappe pour des légumes redescende à 1 mètre de la surface du sol. Donc, la plupart des sols au Québec sont naturellement mal drainés, c'est-à-dire qu'il faut mettre des drains souterrains. Si la topographie de la ferme est irrégulière, il peut y avoir seulement à mettre des drains souterrains à certains endroits stratégiques, mais ça, il faut faire un plan de drainage pour le savoir. Mais c'est extrêmement rare de tomber sur des sols qui n'ont pas besoin d'être drainés. Et si vous ne prévoyez pas du drainage souterrain, ça va être, comme on dit, 10 ans de vaches maigres. Ça va être plus que 10 ans de vaches maigres, comme on dit.
Ouais, tu risques de faire pousser des légumes dans un lac parfois.
Ouais, ben ça poussera pas.
Ouais, OK, pour faire simple. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en fait la différence entre l'eau de surface, l'eau hypodermique et la nappe phréatique? Puis est-ce qu'il y a des installations hydro-agricoles, des investissements hydro-agricoles spécifiques pour chacune de ces types d'eau-là?
Oui, en fait, quand on parle de drainage, on parle de drainage de surface et de drainage souterrain. Quand on parle de drainage de surface, il faut arranger la topographie du sol pour que l'eau sorte du champ. Là, on parle de nivellement, plan de nivellement, et on déplace la terre pour être sûr qu'il y ait des pentes adéquates qui amènent l'eau à l'extérieur du champ. Ça, c'est la première chose à faire. Ça peut impliquer de mettre ce qu'on appelle des puits de roche ou des avaloirs, c'est-à-dire que s'il faut bouger trop de terre, on ne la bougera pas. On amènera l'eau dans une cuvette, s'il y a une cuvette qui existe déjà, et on va mettre comme un drain vertical dans cette cuvette qui va collecter l'eau et l'amener ensuite à un fossé par un drain souterrain. Donc ça, c'est important, c'est de base. Et ensuite, il y a le drainage souterrain, lui qui est fait pour rabattre la nappe d'eau. Il y a toujours une nappe d'eau dans les sols mal drainés. C'est-à-dire que si vous creusez, mettons, au mois de juin ou au mois de mai, vous creusez votre trou et vous allez avoir de l'eau dans le bas du trou, peut-être à 60 cm de la surface du sol. C'est la nappe d'eau. C'est-à-dire qu'à partir de 60 cm de profondeur, le sol est complètement saturé en eau. En hiver, souvent, l'eau remonte jusqu'à la surface du sol. Et puis au printemps, tranquillement, elle baisse. Et quand elle a suffisamment baissé, c'est là que vous pouvez aller dans le champ pour semer ou planter vos légumes. En été, elle baisse encore plus. Elle risque de baisser à 2 mètres de profondeur, peut-être même 3 mètres. Et selon les champs, quand il y a une grosse pluie, l'eau peut remonter jusqu'à la surface du sol. Et si elle rebaisse pas vite, c'est là que les légumes étouffent et que ça fait une très mauvaise production.
Donc, il y a un délai vraiment restreint de temps où est-ce qu'il faut que l'eau baisse, comme tu disais. Bien, c'est sûr que selon les saisons, c'est très différent. À l'automne, par exemple, on ne peut pas espérer que l'eau se draine aussi rapidement que dans le mois de juillet. C'est quoi la tolérance qu'on peut avoir à l'automne?
Ça se draine avec la même rapidité, que ce soit en juillet ou à l'automne. Mais ce qui se passe en juillet, c'est qu'il y a beaucoup d'évaporation et les plantes prennent de l'eau, ce qui fait que le sol a tendance à être beaucoup plus sec. Il est asséché plus vite, mais la nappe d'eau, elle descend à la même vitesse.
OK. Mais l'accumulation de l'eau, la nappe, est-ce qu'elle est plus haute ou plus basse selon l'accumulation qu'il y a eu dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Par exemple, un été sec, la nappe est censée être plus basse à ce moment-là. Est-ce que je me trompe?
Oui. Non, plus il fait sec, plus la nappe baisse. Et puis, dès qu'il pleut, ben, elle remonte. S'il pleut beaucoup, ben elle remonte. À un moment donné, elle se rend jusqu'à la surface du sol. Là, tu sais, quand on marche dans le sol, des fois, c'est super boiteux. C'est pas toujours à cause de la nappe d'eau, mais ça peut arriver. Il arrête de pleuvoir, la nappe commence à baisser. Et idéalement, au bout de 3 jours, la nappe a baissé de 1 mètre. C'est ça qu'on veut. Si vous avez une zone compacte, mettons entre 20 cm de profondeur et 30 cm de profondeur. Donc une couche compacte, elle peut être tellement compacte que l'eau de pluie qui tombe ne la traverse pas. À ce moment-là, toute l'eau de la pluie reste dans la couche du haut, au-dessus de la zone compacte. Le sol devient complètement saturé, super boiteux. Et là, on parle d'une nappe perchée, c'est-à-dire que ce n'est pas la nappe phréatique. Elle ne monte pas parce que l'eau s'y rend pas. Mais vous avez une nappe superficielle qui provient de la compaction.
Donc, c'est vraiment une nappe de surface, mais c'est pas la même. Comment faire pour la différencier pour un œil, pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience que tu as? Comment on fait pour...
Mais si vous avez une... Comme si c'est boiteux, ce que vous pouvez faire, vous faites un trou, OK? Et ce que vous allez voir, si c'est la nappe qui vient de la nappe phréatique, vous allez voir l'eau qui monte du bas vers le haut, c'est-à-dire que le bas du trou se remplit L'eau vient des côtés du bas du trou et elle remonte à partir du bas du trou. Si vous avez une nappe perchée, regardez bien, parce qu'on ne le voit pas pendant longtemps, mais vous allez voir l'eau qui rentre dans le trou par le haut, c'est-à-dire que l'eau rentre par les parois du trou, mais entre 0 et 20 cm. Au-dessus de la conche compacte, elle rentre par là et elle descend dans le trou. Ouais. Le trou se remplit aussi, mais vous allez voir l'eau qui descend le long des parois.
C'est vraiment que ça suinte en quelque sorte.
Ça suinte en haut et puis ça coule vers le bas.
Oui, je pense que c'est ça parois. Que ça faisait chez nous, en fait. Okay. On était comme, oh, ça c'est une nappe perchée.
Oui, ça c'est juste un problème de compaction. Normalement, ça se règle quand même facilement. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on a de la compaction, ça s'est fait parce qu'on a travaillé dans les champs trop humides, parce qu'ils étaient mal drainés, c'est-à-dire que parce que la nappe d'eau ne descendait pas assez vite. Donc, ça ne veut pas dire que quand vous avez une nappe perchée, vous avez juste un problème de compaction. Ça peut quand même dire qu'il y a un problème de drainage souterrain.
Mm-hmm. Ça veut dire que se renseigner sur l'historique, d'essayer de se renseigner à propos des travaux de sol qui ont eu lieu par la personne qui était là, mais aussi par les voisins, peut-être, ça peut être un bon moyen.
Quelqu'un qui sait bien lire un profil de sol va tout voir sur le profil.
Okay, va être capable de tirer les conclusions
oui, absolument.
En regardant. Ouais, wow, c'est ça, c'est un super pouvoir que je ne crois pas posséder. good. J'aimerais ça qu'on aille plus au niveau des signes de santé puis des signes de problématiques. Tu as parlé de, on regarde la végétation, par exemple, on regarde la qualité de la vie sur le sol. Ça peut être un bon indicatif. Est-ce qu'il y a d'autres signes de santé super clairs comme ça?
Oui, la végétation, ça renseigne déjà énormément. Sinon, ça, de nouveau, un autre signe qui demande aussi de l'expérience, c'est dans votre profil de sol, dans la couche travaillée, comme entre 0 et 20 cm de nouveau, c'est de regarder l'aspect du sol. Et si c'est un sol qui est avec plein de petits agrégats, là, des petits grumeaux qui se défait bien, vous voyez que c'est super poreux, c'est un sol en santé. Si au contraire, vous n'avez pas de porosité, vous prenez votre mode de sol, vous appuyez dessus et puis ça ne se défait pas du tout. Ça reste comme un bloc de béton. Votre sol, il n'est pas trop en santé. C'est vraiment... visuellement, on peut quand même très bien le voir. Sinon, il y a plein d'analyses sur la santé des sols, mais à date, il n'y a rien de parfait.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, OK. Tu veux dire des analyses microbiologiques sur la vie, c'est ça que tu veux dire? C'est comme en cours?
C'est en développement. Ouais. Moi, il n'y a rien qui fonctionne très bien, à mon sens, encore.
À ce jour?
Oui.
OK, mais peut-être qu'on va arriver là.
Oui, ça va peut-être s'en venir. Mais il ne faut pas oublier que quand vous regardez votre couche 0,20 cm, c'est une chose, mais si c'est du béton en dessous parce que ça a été compacté, vous avez un problème même si c'est beau au-dessus.
OK, c'est compacté. On va dire que oui, on arrive puis c'est compacté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour décompacter? Est-ce que la décompaction classique, là, si on arrive avec une sous-soleuse, est-ce que assez agressive, est-ce que selon toi c'est une bonne méthode pour commencer avec un sol compacté?
Alors, ça dépend de la situation. Quand on fait le profil de sol, toujours on regarde où descendent les racines, s'il y a des fissures dans le sol. Fait que si les racines, vous voyez qu'elles descendent bien, que le sol est fissuré, bon, ça va. Il n'y a pas d'ouvrage de décompaction à faire. Si les racines, ils sont toutes jamais, vous regardez, vous avez plein de racines entre 0 et 20 cm, puis plus rien en dessous, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Alors, reconnaître la compaction dans un sol argileux, c'est assez évident. Et il peut être nécessaire de sous-soler, mais ça ne se ramène pas vite une compaction de sol argileux. Vous en avez pour quelques années avant que les choses se replacent. Ce n'est pas évident. Par contre, en sol sableux, c'est assez facile de défaire une compaction. Ça peut se faire avec un outil de travail profond, un chisel, c'est un outil à dents ou une sous-soleuse. Il faut voir à quelle profondeur est la compaction pour aller travailler à la bonne profondeur. Qu'est-ce qui est très difficile avec les sables, c'est que la compaction ne peut pas s'évaluer au toucher. Si vous prenez une motte de sable, elle va tout le temps se défaire. Alors, vous allez penser que ce n'est pas compacté. Il faut regarder les racines. Parce que quand c'est compacté, les grains de sable, ils sont comprimés les uns contre les autres. Alors, si vous sortez une pelletée de sol du profil, ben là, il y a plus rien pour contenir le sable. Alors, ils peuvent tous se séparer. Mais tant que le sable est dans le sol, puis que les grains de sable sont vraiment comprimés, les racines n'arrivent pas à passer entre les grains de sable. Et là, c'est de la compaction. Alors souvent, il y a un mythe, on dit, bon, ben, on met des engrais verts et ça va décompacter. Oui, quand c'est très peu compacté, ça peut fonctionner, mais il y a une limite. Les racines d'engrais verts, ça ne peut pas toujours rentrer dans le sol quand il est très compacté. Et c'est là que ça vaut la peine de travailler le sol avec une sous-soleuse. Ensuite, on met un engrais vert et les racines de l'engrais vert vont contribuer à continuer à défaire la compaction.
Mm-hmm. Donc, c'est ça, il y a un travail en amont qui doit être fait, puis la végétation peut après ça donner un coup de pouce.
Oui, c'est ça.
Des graminées en particulier pour leur
Alors, leur dans les engrais verts qui vont vraiment aider pour décompacter, moi, je mettrais un mélange de racines. Le seigle d'automne, seigle de printemps, et le régras, ça fait vraiment des super belles racines entre 0 et 30 cm. C'est vraiment extraordinaire. Et puis avec ça, on peut mettre d'autres plantes qui vont plus en profondeur, comme de la luzerne, des fois du radis, de la moutarde, mais en maraîcher, normalement, les crucifères, on n'aime pas voir ça. Mm-hmm. La luzerne, apparemment, ça fait vraiment une belle job en profondeur. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le régras, le seigle va descendre un peu aussi, mais c'est surtout dans les couches du dessus qui se développent. Le mélilo va aussi descendre en profondeur.
OK, mais je pense que déjà, ça donne pas mal d'options pour pouvoir aller faire un engrais vert de profondeur.
On vous revient tout de suite après la pause.
Vous munir d'outils de qualité vous garantit qu'ils vont durer longtemps et que vous pourrez accomplir vos tâches sans vous tracasser. Les sécateurs Felco en sont un bon exemple. Ils sont durables et ont des pièces qui peuvent être remplacées au besoin. Ces outils de coupe vous suivront pendant de longues années. Trouvez un choix incomparable de sécateurs Felco chez Dubois Rénovation, le partenaire principal de la vie maraîchère. Visitez le www.duboisag.com, www.duboisag.com. Et profitez de la livraison gratuite sur vos commandes de 200$ ou plus en ligne. Donc, idéalement, là, la séquence initiale, ça serait bon, par exemple, de passer la sous-soleuse si nécessaire, ou un chisel, comme tu disais, puis de laisser un engrais vert de ce type pendant combien de temps, selon toi, l'idéal?
Mais la durée de l'engrais vert, c'est le temps que vous avez avant de produire. Idéalement, 2 ans.
Oui, c'est rare, là.
Avec une prairie, mais c'est pas très réaliste. Une saison, c'est déjà très bien.
Oui.
Et il y a une chose à laquelle il faut penser, c'est qu'un engrais vert, c'est comme une culture. Fait que si vous allez fertiliser votre culture, si vous démarrez avec un champ pauvre et puis vous mettez un engrais vert et vous le fertilisez pas, il va pas beaucoup pousser. C'est bien de mettre une légumineuse avec une graminée, ça va aider parce que la légumineuse fixe l'azote, mais vous pouvez avoir à fertiliser aussi. Donc, faut le considérer comme une culture.
OK, c'est bon, c'est super bon à savoir. Si toi, tu avais à choisir un terrain, quel type de granulométrie choisirais-tu? Non, mais c'est comme, est-ce que tu irais plus vers un sable, vers un argile ou vers un entre-deux?
Pour des légumes, j'irais plus vers un sol sableux, c'est tellement plus facile. Mais il faut faire super attention parce qu'il y a différentes sortes de sable. Et il y a des sables qui sont l'enfer total.
De quelle façon?
Alors, parce que dans la granulométrie du sable, vous avez des sables grossiers, c'est des gros, gros sables. Si vous prenez le sable, les grains, vous les sentez rouler entre votre index et votre pouce. C'est parce que le sable, ça va juste, si je me rappelle bien, ça va jusqu'à 2 mm. Fait que vous pouvez avoir des grains quand même très, très... Je dis des bêtises, non, je pense pas, très gros. Même si un grain de sable qui a 0,5 mm, c'est quand même encore assez grossier. Ça, c'est des sables qui sèchent très, très vite et qui se drainent bien. Attention, c'est pas votre drainage général ne sera pas nécessairement bon si vous avez ce genre de sol-là, parce que vous pouvez avoir une couche en dessous qui bloque le drainage. Mais si vous avez comme, mettons, 2 mètres de sable grossier, vous êtes pas mal sûr que c'est un sol qui se draine bien. Par contre, vous avez le sable à construction, le sable qu'on compacte, là, qui est fin. Quand ça roule pas entre vos doigts, ça fait presque comme une farine, pas loin. Et ça, c'est des sables hyper imperméables qui se drainent pas et qui sont un peu infernales à travailler. Il y a des agriculteurs qui en ont, ils disent « tant que je ne travaille pas, mon sol ne sèche pas, donc il faut qu'ils aillent dans leur sol mouillé, ce qu'on ne devrait pas faire, juste pour le floffer, hein, pour l'aérer pour qu'il sèche. » Donc, oui, j'irais vers un loam sableux, c'est sûr, mais pas un loam sableux très fin, là. Parce que là, c'est un problème. Pour finir, les loams, c'est bien aussi. Puis un sol argileux, il y a des excellents sols argileux. Puis il y a des sols argileux très difficiles. Donc, il faut trouver le bon sol argileux. C'est sûr que les régions du Québec où on a tendance à acheter des terres quand on commence, c'est-à-dire que c'est des coins où les terres sont pas chères, c'est souvent des régions plus montagneuses dans les cantons de l'Est. Ce sont des sols qui viennent des glaciers. On parle de tils glaciaires qui sont en général rocheux et naturellement compacts avec un drainage qui n'est pas très bon. Donc, c'est des sols plus difficiles. Mm-hmm. Ce n'est pas des sols faciles. Là. Ils sont naturellement compacts. C'est-à-dire que vous allez arriver à les décompacter un peu, mais pas... Ça restera un défi. Là. Ça se fait, mais c'est un défi.
OK. Mais si ton seul critère d'achat, c'était le sol, dans quelle région irais-tu?
La région... Je prendrais sûrement un sol d'origine marine, c'est-à-dire dans la vallée du Saint-Laurent.
Oui, j'imagine. Hein?
Oui. Parce que souvent, les sols d'origine marine... Le sous-sol, c'est de l'argile, mais souvent, c'est un argile bien structuré. Il faut le drainer. Ils sont naturellement mal drainés. Mais il y a des sols qu'on ne peut pas drainer. Ils sont tellement naturellement compacts que vous avez beau mettre des drains, ça ne marche pas.
Il n'y a rien à faire.
Ouais. Ça, c'est quand même à éviter. Mais si jamais c'est ça que vous avez, il faut vraiment accentuer le drainage de surface, faire des buttes et cultiver sur les buttes pour que l'eau s'écoule bien. Là.
Oui, OK. Super. Puis, une fois qu'on est en production, est-ce que tu pourrais me nommer ce qui, selon toi, sont des bonnes actions préventives ou des bonnes méthodes culturales pour garder un sol vivant avec une belle structure?
Mais pour garder un sol vivant, je pense qu'il faut revenir assez souvent avec des engrais verts. Un peu de compost aussi, c'est bon pour le sol.
La fréquence des engrais verts idéale, selon toi?
Ah! L'idéal, un an sur deux, mais je dirais au moins un an sur quatre.
Ouais, okay.
Je trouve que c'est important si vous achetez une terre dans un coin où la terre coûte pas cher, prévoyez
un espace de plus.
Oui, un espace pour faire une rotation avec des engrais verts. C'est tellement plus facile quand vous avez un an d'engrais verts sur trois ou sur quatre, juste pour planifier la rotation, mais pour baisser la pression de mauvaises herbes, améliorer le sol. Ça vaut vraiment la peine.
Est-ce qu'il y a d'autres méthodes préventives ou de bonnes méthodes culturales que tout le monde devrait faire idéalement?
Mais je pense que pour ceux qui sont mécanisés avec des tracteurs, l'idéal, c'est de toujours rouler au même endroit et de ne pas rouler là où vous cultivez. Vous allez vraiment éviter de faire de la compaction.
OK. Est-ce qu'on parle des planches permanentes dans ce cas-ci? Comment est-ce que toi, tu l'entends, ce concept-là de planche permanente?
Oui. Alors, planche permanente, le terme est utilisé de plusieurs façons au Québec. Les planches permanentes, pour moi, la définition, c'est des planches où on roule jamais dessus. C'est-à-dire que c'est des planches sur lesquelles on va toujours mettre des légumes. Elles peuvent être surélevées. Elles n'ont pas besoin d'être surélevé, ça dépend. Par exemple, si vous cultivez un sable vraiment grossier qui sèche très vite, c'est mieux de ne pas surélever les planches parce qu'elles vont sécher encore plus vite. Au contraire, là où il y a beaucoup d'eau, ben vous surélevez vos planches pour évacuer l'eau plus vite. Mais je dirais que c'est un endroit où on garde toujours les légumes. Après ça, il y en a qui utilisent le terme « planche permanente » et qu'il l'associe à un mode de travail de sol particulier où on n'utilise plus le rotoculteur, mais des outils à dents.
Oui, c'est associé à Templiers.
Oui, par c'est le système de Templiers dont Denis Lafrance a importé la méthode et il parle de planches permanentes. Et là, c'est non seulement les planches restent au même endroit, mais il sort le rotoculteur qui a tendance à faire une semelle à la base et pour remplacer ça par des outils à dents. Effectivement, on voit une amélioration du sol en utilisant ce système à dents plutôt que le rotoculteur.
Oui, mais si je comprends bien, pour toi, ça ne veut pas les planches permanentes n'évoquent pas nécessairement juste ce type de méthode-là à la Templier, on va dire, avec ces outils-là spécifiques.
Non, je pense pas, parce que, en fait, le terme planche permanente, à la base, c'est juste toujours les mêmes planches au même endroit.
C'est ça.
Oui.
Ouais. C'est juste le contrôle du trafic, en fait.
Oui, le contrôle du trafic.
C'est
oui.
ça. Est-ce qu'il y a des sols dans lesquels les planches permanentes sont absolument indispensables, à ton avis?
Oui, je pense que dans les argiles, les planches permanentes sont un incontournable, parce que on passe beaucoup... Là, je parle d'un système mécanisé, mais on roule beaucoup en tracteur et souvent dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales parce qu'il faut rentrer dans le champ pour récolter et on se ramasse à tout compacter. Donc, il faut absolument des planches permanentes et passer au même endroit.
Est-ce que ça peut vraiment améliorer la qualité du sol à long terme d'utiliser des planches permanentes dans un milieu argileux?
Oui, mais ça ne l'améliore pas. Mais ça ne la détruit pas.
Oui, c'est plus c'est ça.
Ouais. Mais moi, j'ai vu une ferme avec des sols très argileux où ils ont la technique de planche permanente depuis 30 ans. Puis c'est dans des argiles très difficiles qui se compactent très facilement et leurs sols sont superbes. C'est vraiment en super bon état. Alors que j'ai travaillé avec une ferme en sol argileux justement qui ne faisait pas ça. Et c'était vraiment terrible. C'était compacté, les légumes ne poussaient pas. C'était le jour et la nuit. Ça, c'est en sol argileux. Il ne faut pas croire qu'en sol sableux, on ne compacte pas. Il y a beaucoup de monde qui pense que les sols sableux ne se compactent pas.
C'est une fausse croyance, ça?
Oui, c'est vraiment une fausse croyance. Ça se compacte encore plus facilement que les sols argileux.
Est-ce qu'il y en a un qui pardonne, l'autre qui ne pardonne pas?
Mais le sol sableux pardonne, c'est-à-dire qu'en travaillant le sol, on défait la compaction facilement.
OK. Donc, c'est ça. Le danger reste le même, mais il y en a un sur lequel c'est possible de faire une action qui réverse.
Oui, c'est ça. C'est ça.
OK. J'aimerais ça qu'on revienne sur les engrais verts, que tu m'en parles un petit peu plus, en fait. OK, l'intégrer une année sur deux, idéalement, mais bon, disons, je me permets de dire une année sur quatre, là, si possible. Est-ce que tu as des recommandations de mélange selon la vocation qu'on cherche à leur donner, selon aussi peut-être le temps qu'on a? C'est si, par exemple, on a juste du temps en fin de saison ou en début de saison, est-ce que tu as des mélanges spécifiques pour le début ou la fin de saison?
Oui, OK. Mais les engrais verts, dans une ferme maraîchère, je pense qu'ils doivent servir à apporter de l'azote. Sinon, d'où va venir l'azote? Et elle ne viendra pas du compost, parce que le compost, pour fournir assez d'azote à vos cultures, faudrait en mettre énormément. Et ça devient des quantités qui, environnementalement, sont qu'on peut questionner. Parce que le compost minéralise quand même pas beaucoup d'azote. Et pour avoir suffisamment, il faut en mettre. Donc, si vous ne pouvez pas fertiliser juste avec du compost et que vous n'utilisez pas les engrais verts, vous mettez du fumier granulé. C'est-à-dire que vous devenez complètement dépendant du fumier granulé de poules pondeuses.
Des croquettes.
Des croquettes. Et ça, ce sont des élevages industriels. Alors, je ne suis pas contre dans le sens que j'en recommande. Mais quand même, le plus, on peut intégrer des méthodes qui permettent de limiter les quantités qu'on met, le mieux c'est. Et la méthode, c'est l'engrais vert. Juste, par exemple, en grande culture, les producteurs, ils cultivent 200, 300, 400 hectares. Ils ne pourraient jamais mettre du fumier granulé.
Non, ça serait carrément impossible.
Ça serait hors de prix. Et tout leur azote, quasiment, vient des engrais verts. Pas tout, parce qu'ils mettent quand même un peu de fumier de volaille, mais comme il y a un bilan phosphore, ils n'ont pas le droit de dépasser une certaine quantité de phosphore, ils ne peuvent pas mettre beaucoup de fumier de volaille. Et c'est l'engrais vert qui apporte presque tout l'azote. Quand on pense qu'on recommande 170 kg d'azote dans le maïs, Et qu'il y en a qui sont capables de faire du maïs juste avec de l'engrais vert, de légumineuses.
C'est parce que ça en apporte pour la peine.
Ça en apporte vraiment beaucoup. Donc, il faut favoriser un engrais vert de légumineuses. Selon le système, ça peut être du trèfle, de la luzerne, mais on travaille beaucoup avec du pois fourrager, avec de la veste commune, avec de la veste velue. Alors, si on cultive un engrais vert pendant toute une saison, on a quand même plusieurs choix. Ça dépend du système de travail du sol. Un mélange qui marche bien pour toute la saison, c'est seigle d'automne, veste velue, mais il faut détruire le seigle d'automne à l'automne, sinon il repousse au printemps. Sinon, on a des mélanges, c'est difficile à donner comme ça, des mélanges, parce qu'il faut connaître vraiment les limitations du système, être sûr que vous êtes capable de les détruire facilement. Mais on peut avoir seigle, régras, veste commune.
Oui, c'est ça, on peut se faire avoir par le seigle. C'est la première fois qu'on en fait au printemps, oui. Ça peut être assez traître.
Oui, puis le régras peut passer l'hiver aussi. Donc, mais je mélangerais idéalement une graminée avec une légumineuse. Mm-hmm. Si on a toute la saison, on peut mettre une graminée comme une céréale avec du trèfle qu'on va faucher ensuite. On peut mettre une céréale avec de la veste commune. Si on met du régras là-dedans, ça fait un plus beau mélange. Et que c'est, y a quand même plusieurs choix. Il faut toujours le réfléchir en fonction de la situation.
Oui, j'ai vu sur le site du CETAB que tu as une présentation en référence qui s'appelle « Stratégie de rotation d'engrais vert avec l'ail, quatre scénarios ». Puis là-dedans, il y a des tableaux de référence un peu sur les propriétés. Ben, en fait, ce qu'on peut... les caractéristiques de chaque engrais vert, de chaque
sorte. Oui, c'est ça. Vous avez les doses de semis, les caractéristiques, des exemples de mélange. Mm-hmm. Et je pense que vous pouvez bien vous référer à ce PowerPoint. La seule chose, c'est qu'il y a peut-être plus de choix quand vous n'avez pas la contrainte de détruire l'engrais vert quand même suffisamment tôt pour pouvoir mettre l'ail, parce que ça tourne, la présentation tourne autour de l'ail. Mais je pense que l'essentiel y est.
Oui, c'est ça. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment une belle présentation de référence pour ça, là.
Un bon engrais vert de légumineuse peut apporter à peu près 100 kg d'azote disponible, ce qui est à peu près ce que vos légumes ont besoin. En moyenne, sur une ferme maraîchère, en faisant la moyenne entre les légumes exigeants et peu exigeants, vous avez besoin d'à peu près 100 à 120 kg d'azote par hectare. Okay? Ça, c'est à peu près 3 tonnes de fumier granulé à l'hectare. Hein, parce qu'il y a à peu près 40 kg d'azote disponible dans une tonne de fumier granulé. Donc, 3 fois 40, ça fait 120 kg d'azote. Ça fait, il me semble que c'est 300 grammes au mètre carré, je pense. Hein. Si vous avez un engrais vert avant vos légumes exigeants, vous êtes capable de baisser peut-être votre application de fumier granulé à une tonne à l'hectare, juste pour avoir une petite sécurité. Mais en gros, si vous avez un hectare à fertiliser... si vous n'utilisez pas d'engrais vert, ça vous prend 3 tonnes.
C'est énorme.
C'est beaucoup.
Oui. Comment on fait pour calculer ça, l'azote qui reste en fait après un engrais vert?
Je pense qu'on aura encore besoin de quelques vies pour être capable de répondre à cette question. C'est vraiment très approximatif parce que quand vous incorporez votre engrais vert au sol, si votre sol est bien drainé, en bon état, il va bien se minéraliser, ça va vous donner beaucoup d'azote. Si votre sol est en mauvais état, l'engrais vert ne va pas bouger, ça ne vous donnera pas beaucoup d'azote. Donc, il y a un facteur sol qui est super important. Maintenant, si vous avez un engrais vert, mettons un engrais vert de pois fourrager, il y a à peu près 4% d'azote. Donc, si vous avez un super bel engrais vert, mettons 4 tonnes de matière sèche de pois fourrager, à 4% d'azote, ça vous fait 160 kg d'azote total. Vous pouvez vous attendre à ce que la moitié soit disponible à la culture suivante.
Ça, c'est un estimé conservateur ou c'est...
Oui, c'est ouais. Conservateur. Parce que les producteurs de grandes cultures avec une matière sèche de 4 tonnes à 4%, d'azote, ils arrivent, quand leur sol est en bon état, ils arrivent à faire un maïs sans rien rajouter. Donc, c'est probablement un peu plus. Ouais.
Ouais, OK, c'est sûr.
Ce qui est important, le poids, c'est facile parce que il faut qu'il soit vert, hein, il faut pas qu'il se soit lignifié, ouais. Là. Mais si vous prenez du trèfle rouge, l'azote est à son maximum un peu au début du stade bouton. Si vous incorporez votre trèfle rouge au début du stade bouton, vous avez peut-être 3,5% d'azote et la moitié va se minéraliser. Mais si vous l'incorporez au stade floraison, le ratio carbone-azote a beaucoup augmenté et ça ne donnera pas beaucoup d'azote à la culture suivante. Donc, il faut vraiment incorporer les légumineuses à un stade peu avancé.
OK. Puis le relâchement de cet azote-là, est-ce que c'est plutôt rapide? Est-ce que c'est... Ça dépend, j'imagine, bien, c'est évidemment, ça, si du stade. Là.
Si le stade est peu avancé, c'est rapide. Sinon, c'est trop lent. Ça marchera pas.
Faudrait le faucher à peu près combien de temps à l'avance, là?
Ça, c'est pas ça qui est tant important. C'est vraiment de le faucher au stade bouton, okay. Pas au stade floraison.
Puis ça va pas avoir tendance à se lessiver, cet azote-là, c'est
non.
Ça?
Non,
c'est
ça stable. Se lessive pas, oui. Ça va être rentré dans le sol, puis tranquillement, les bactéries vont le transformer en azote.
OK.
Et que si dans votre sol, les bactéries sont malheureuses, il mm-hmm. n'y a rien qui va se passer. Il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait une bonne structure. Quand on dit « faut qu'il y ait de l'air », ça résume tout. Il ne faut pas que le sol soit compact, il ouais. ne faut pas qu'il y ait de l'eau.
Ouais.
Pas trop d'eau. Si c'est sec, les bactéries ne sont pas heureuses non plus. Il faut que ça soit humide, mais pas gorgé d'eau.
Ouais, je pense qu'on pourrait peut-être terminer là-dessus. Comment avoir des bactéries heureuses? C'est quoi avoir de l'air, avoir une bonne aération, pas avoir trop d'eau, avoir un engrais vert régulier.
Oui, de la nourriture, donc ouais. des engrais verts réguliers, des racines, des engrais verts, des résidus de culture, donc de la nourriture pour les bactéries, de l'humidité quand même, mm-hmm. Et de l'air, ben, surtout de l'air. Ouais.
Puis pas trop de piétinement.
Oui, mais c'est ça. Dès qu'on parle piétinement, on parle compaction, mais là, ouais, c'est compacté, il n'y a plus d'air.
En fait, c'est relativement simple.
Oui, c'est simple.
C'est ça. C'est
ça juste... prend de l'oxygène. Donc, ça prend une bonne structure de sol et pas trop d'eau. Ça se résume à ça.
Est-ce qu'il y a une date butoir pour faire un bel engrais vert? Puis c'est quoi que tu ferais en fin de saison, à la fin d'une culture, là?
OK. Oui, il y a une date butoir. Si vous voulez, si vous pouvez semer... Je parle là du climat en Montérégie. Avant le 15 août, vous pouvez mettre un avoine-pois ou juste du pois fourragé. Ça va donner normalement des bons résultats. Quand vous approchez la fin août, le pois, ça commence à être trop tard. À ce moment-là, vous mettez de l'avoine. Et plus la saison avance, donc on sera en septembre, vous mettez encore de l'avoine, mais vous augmentez la dose parce qu'elle ne va pas pousser beaucoup. Alors, on en veut beaucoup de plants. Donc, vous augmentez la dose. Vous pouvez mettre du seigle, mais vous allez être pris avec le seigle au printemps suivant. Selon votre système, c'est bon ou c'est pas bon.
À part si on met de la veste velue, j'ai vu dans la présentation que ça peut arriver que la veste velue, en début de saison, va comme prendre vraiment de la force. Là. Oui, mais... J'ai vu que ça l'avait étouffé, hein, un engrais vert de seigle.
Oui, en fait, la veste velue, au printemps, elle pousse très vite. Pas aussi... C'est drôle, elle pousse d'une certaine façon pas aussi vite que la céréale quand même. Mais on dirait qu'au début, la céréale pousse et puis la veste prend le dessus et... Elle mange la céréale, il n'y a plus que de la veste après. C'est pour ça que, en fait, un mélange qu'on fait pour toute la saison, c'est seigle d'automne, semé au printemps avec la veste. Au début, le seigle, il protège un peu contre les mauvaises herbes, et puis la veste part, et puis on ne voit plus de seigle d'automne, on ne voit que de la veste. Mmh. Mais ce qui est drôle, c'est que si on sème ce même mélange-là, blé ou avoine ou seigle avec la veste au mois d'août, la veste est complètement dominée par la céréale. On dirait que ce sont des conditions beaucoup plus propices à la céréale qu'à la veste et ça ne marche pas. Ou alors, la veste va pousser, mais il faut mettre presque pas de céréales.
OK. C'est... Wow. Il faut vraiment apprendre à les connaître, en fait. Il faut vraiment comme développer son mélange, en quelque sorte, puis apprendre à le connaître avec le temps aussi.
Oui, oui, je pense que pour une ferme qui commence, moi, j'essaierais... Si c'était moi, j'essaierais plusieurs engrais verts, plusieurs mélanges, et je regarderais qu'est-ce qui fonctionne le mieux.
Mm-hmm. Ouais. Tu parlais d'augmenter la dose en fin de saison. Un dosage qui fait du sens, là, tardivement, ça ressemble à quoi?
Le 200 kilo-hectares.
OK.
Ça, c'est beaucoup. Normalement, on met 80 kilo-hectares quand on la met en mélange, même 50 à 80 quand mm-hmm. on parle d'avoine. Puis fin août, on va peut-être mettre 120, 130, puis on monte à 200.
OK. Donc, plus on est tard, plus qu'il faut mettre le paquet.
Oui, c'est ça.
OK. Bon, écoute, Anne, ça a été super intéressant. Merci tellement d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Tes connaissances sont extrêmement précieuses.
Bien, merci à toi.
On aimerait tout ça que tu sois avec nous pour regarder un profil de sol. Est-ce qu'on a eu la chance d'avoir à la maison? Mais finalement, il y avait tellement de types de sols différents que j'en étais juste plus perdue. Mais c'est vraiment parce qu'il y avait trop de types différents, justement, là.
Ça arrive souvent dans les en région périphérique. Il y a beaucoup de sortes différentes. Ouais.
Ouais, c'est ça. Ça devient difficile de tirer des conclusions. Là.
Ouais.
Bon, alors merci pour ton temps. Merci d'avoir été là.
Merci.
Bye bye.
Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. J'espère qu'elles ont été comblées d'informations pertinentes. Le mois prochain, je reçois Annie-Claude et Justine de La Fermette qui vont nous raconter un petit peu le démarrage, les joies, les hauts et les bas du démarrage. Donc, ça va être vraiment cool. J'espère que vous allez aimer ça. Puis voilà, je vous souhaite une belle fin d'été, un bon mois d'août à vous. Puis santé et abondance à tous. Bye!